des brocolis, des épinards. J'ai tout pris, tout ce qu'il y avait sur le marché. Donc vous voyez, on est en pleine forme.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Continuez à manger ce qui vous fait plaisir, la vie est trop courte.
Laurent Mariotte.
Et comment que la vie est trop courte? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, hein, comme tous les samedis, du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. Vous le savez, c'est ici que ça se passe. Au passage, un grand merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi. On va en reparler dans un instant. Ah bah ça y est, Olivier Pousse a déjà ouvert la bouteille de champagne. On va commencer par un tour au marché à Marseille dans un instant. Il fait froid, hein, vous avez remarqué. Alors pour se réchauffer, nous allons passer en revue les différentes cuissons en croûte, croûte de pain, de sel ou d'argile. Elles nous en font voir de toutes les saveurs, vous entendrez. Voici mes bons vivants du jour. Elle aime casser la croûte. Sa bonne résolution pour 2022 est de tester encore plus de tables que l'année dernière. C'est Charlotte Langrand que vous pouvez lire dans le journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent. Oui, la vie est trop courte pour manger tout ce qu'on aurait en main.
C'est vrai.
Tout ce qu'on aimerait manger.
C'est vrai. Mais il faudrait deux vies en fait.
Plusieurs vies, oui.
Pour lui, l'heure du casse-croûte est sacrée et il l'apprécie encore plus avec un vin de circonstance. Vous lisez ses conseils dans la revue des vins de France. Olivier Pouls est des nôtres. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis. Et voilà, je vous sers un petit coup de champagne.
Et pas n'importe lequel.
C'est un petit truc à fêter. Écoutez, on ne fait pas les choses à moitié ici. Merci à la maison Louis Rodrère qui nous fait déguster son excellente collection 242, ça valait bien ça.
Et
quand même,
on salue tous les champenois et les vignerons qui nous écoutent. Et le samedi, c'est l'occasion, vous le savez, de découvrir les coups de fourchette de nos invités. Michel Jonas nous rejoint bientôt et on se réjouit. Oui, c'est vrai qu'on a ouvert la bouteille de champagne parce qu'on fête nos bonnes audiences et on est content quand elles sont bonnes. Il faut dire, hein. Vous êtes plus de 650 000 à nous écouter chaque samedi, donc un grand merci pour votre fidélité. Ça nous fait plaisir de partager les plaisirs de la table avec vous et on est encore là vraiment tous les samedis.
650 000 couverts servis
oui,
tous les samedis.
Oui, et des bonnes adresses, des conseils et continuez à échanger avec nous sur les réseaux sociaux et puis sur le groupe Facebook des bons vivants. Question rituelle du samedi que vous pouvez vous poser en écoutant l'émission à la maison ou en voiture. Quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, Charlotte.
Alors, un goût de la semaine un peu comme une bonne résolution. Je voulais vous parler de la première et prochaine masterclass de l'association Écotable. Elle s'appelle « Changer la donne avec son assiette ». Ça sera le dimanche 22 janvier de 14 à 16 heures. Et c'est la journaliste Estherelle Payani et Fanny Giansetto, la fondatrice d'Écotable, qui vont vous décrypter un peu les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux, de l'alimentation, ça sera très pratique, à la fois théorique et pratique, des chiffres, des idées et puis comment est-ce qu'on fait pour manger moins de viande, pour rien jeter, comment on s'équipe. C'est un live, c'est en distanciel donc c'est safe. Et vous pouvez vous inscrire, ça coûte 29 euros, vous inscrivez avant le 21 janvier sur le site d'Écotable et vous apprenez tout ça, vous prenez des bonnes résolutions pour toute l'année.
Oui mais c'est bien, voilà, une bonne résolution durable. Donc.
Durable, hein, voilà.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis échappé de la grisaille parisienne en allant passer en bord de mer. J'étais dans cette magnifique appellation qui est Bandol, avec vue sur mer évidemment et des vignobles super. J'ai visité le domaine de la Bégude, 500 hectares de pinèdes, de garrigues, de vignes en bord de mer. J'ai dégusté évidemment les vins.
Quel métier difficile.
Ouais, je sais. Et il y a une cuvée sur laquelle j'ai eu un coup de cœur. Elle s'appelle la cuvée Tirsus. Et je sais, mon cher Laurent, que ça va vous faire plaisir. Parce que même si je ne les défends pas toujours, de temps en temps, un vin vinifié sans soufre, quand c'est bien
vin
fait,
nature.
C'est bon. Et alors en plus, c'est un vin qui est vinifié aussi en amphore. Et alors, il n'a pas le droit à l'appellation Bandol, parce que l'amphore n'est pas reconnu comme type d'élevage dans l'appellation, donc forcément, il n'a pas le droit à cette belle appellation. Mais c'est vraiment délicieux, c'est un 100% Mourvèdre, et ça vaut autour de 25 euros, et je trouve que c'est une lecture des vins de Provence en rouge absolument remarquable.
Sans sulfite, digeste. Et comme dit Yves Condebord à cette table, ce qui est bien avec les vins nature, ou ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire attention, effectivement, c'est qu'on a tendance à en boire un petit peu plus parce qu'on sent un petit peu moins l'alcool, peut-être. Alors, avec modération.
Non,
tout de
parce
même.
Que le niveau d'alcool, il ne bouge pas, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu immédiat, très proche du fruit, quand c'est bien fait, une fois encore. Et ce vin était assez irrésistible.
Nous sommes samedi, je vois Philippe Vandel encore dans les couloirs. On va lui demander de venir, nous partager son goût de la semaine. Vous le retrouvez tous les jours de 9h à 11h dans Culture Média, vous le savez, sur Europe 1. Quel est son goût de la semaine, il vient faire des heures sup le samedi.
Vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il sait que, il sait qu'on mange il bien et qu'on boit bien.
Mais quel bonheur d'être avec vous, messieurs, dames. Quel plaisir.
Plaisir partagé. Culture Média, tous les jours de 9h à 11h sur Europe 1, avec de belles audiences aussi pour vous, Philippe Vandel. Votre goût de la semaine, tiens alors?
Mon goût de la semaine, c'est Rod Herrer. J'ai la chance de faire partie du prix de Flore. Et le sponsor du prix de Flore, le partenaire, c'est le champagne Rod Herrer. Et nous avons tous été invités à Reims, le jury et le lauréat qui s'appelle Abel Quentin, un livre extraordinaire qui s'appelle Le Voyant des Tempes. J'ai pas encore bu et déjà je me rate. C'est bien parti.
C'est samedi
et
matin.
Et nous avons bu des crus absolument exceptionnels. J'en dis pas plus, je veux pas faire de publicité.
Et ben voilà, monsieur.
Et ben voilà. Fait quand même.
Et ben, réagissez sur les réseaux sociaux. Quel est votre goût de la semaine, chers amis? On vous pose la question sur le groupe Facebook des Bons Vivants. C'est gratuit, vous pouvez répondre. Et sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1, bien entendu. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Direction Marseille. Sur le marché du Prado, tiens, qu'est-ce qui vous inspire en cette saison? Qu'avez-vous envie de cuisiner? Stéphane Burgat, vous savez, le correspondant d'Europe 1 dans la région, eh bien, il vous a tendu le micro.
Qu'est-ce que vous avez mis dans le panier?
Ah, j'ai mis des pommes de terre, des bonnes pommes de terre qui viennent du Nord. Ah. On peut faire les frites, la purée, la soupe, les pommes de terre gratinées. On peut tout faire avec ces patates. Merci.
Les choux, les pommes, de l'ail rose du Tarn qui est délicieux.
Commencez à faire des soupes là, j'imagine, choux.
Ah, oui, soupe de potimarron avec du lait de coco et du gingembre, c'est délicieux.
Vous avez mis quoi dans le panier?
Des pommes, j'ai des clémentines, des poireaux, du céleri rave, des avocats. C'est pour mon repas du week-end.
Alors là, qu'est-ce qu'on a? Quelques pommes, 5 pommes tout simplement, petit repas en amoureux, petit crumble, un peu de cannelle. Alors honnêtement, je ne connais pas la recette, j'ai regardé sur internet, mais c'est pour lui faire plaisir, je sais qu'elle aime les pommes, puis c'est de saison. Et voilà, on va essayer de s'en sortir.
Ah, des pommes de terre qui viennent du Nord, comme on dit dans les ch'tis, et beaucoup de pommes de l'air aussi, on a entendu, hein. Des pommes pour faire des tartes et des crumbles. Monsieur, vous avez raison, sur internet ou dans un livre, vous allez trouver facilement des recettes. Petit conseil, tiens, prenez du sucre vergeoise, vous le Belge, hein, c'est
oui.
Bien. Ça,
le sucre vergeoise, c'est meilleur que le sucre raffiné blanc.
Pour faire un crumble, absolument. Ça marche bien.
C'est meilleur. Moi, je sais pas ce que c'est.
Le sucre vergeoise, c'est un sucre de betterave qui a été cuit deux fois, qui a été caramélisé, qu'on appelle la cassonade dans le Nord et qui a ce petit goût, ça. Effectivement, de caramel. Et qui est délicieux quand on veut faire, par exemple, un crumble. Ça va donner un petit côté tatin à votre crumble.
Et qui est un peu moins raffiné aussi.
Et, oui. Exactement. Philippe Vandel, Philippe Vandel, vous êtes venu casser la croûte avec nous. Les invités de Culture Média lundi, vous les connaissez déjà, je suppose.
Olivier Delacroix, l'homme dreadlocks, pour un témoignage très très fort, mais qui est un peu pathos, donc on va pas tout raconter ici. Et puis Michel Bougenat, sont les 400 ans de Molière, il joue Harpagon. Et vous connaissez la phrase, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger.
Et ben voilà, et ben repos, vous êtes en week-end maintenant.
On est en week-end, on est ravis, on a fait 3% de part d'audience, de progression en un an, donc on est très content.
Je ne me reconnais pas dans la phrase en revanche.
Culture Média, tous les jours de 9h à 11h avec Philippe Vandel.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, on y est, ça y est, c'est l'heure de casser la croûte, ou presque. Hein. C'est vrai qu'on va commencer d'ailleurs par la cuisiner avant de la casser. La croûte de sel, la croûte d'argile, la croûte de pain. Un beau feuilletage aussi autour d'un bel ingrédient. La cuisine française, et pas qu'elle, hein, adore les croûtes. Alors, on en parle aujourd'hui avec le chef Éric Trochon. Vous savez, c'est le chef du restaurant Solstice à Paris, meilleur ouvrier de France et puis professeur à l'école Ferrandi. Bonjour Éric Trochon.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Les auditeurs de la table des bons vivants vous connaissent. Vous êtes déjà venu nous parler des sauces parce que, je leur dis, vous avez écrit le plus beau livre de la cuisine française sur les sauces. Ça s'appelle Sauce, tout simplement, et c'est une bible. C'est une somme, voilà. Mais c'est vraiment l'art de la colonne vertébrale de notre cuisine, hein, la sauce. Hein.
Oui, absolument. C'est l'ADN de la cuisine française.
Vous êtes aussi un amateur des cuissons en croûte. Hein. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la croûte?
Alors, deux choses. La première, c'est que la croûte peut se manger ou pas. Ensuite, c'est quelque chose de très design au sens contemporain du terme. C'est-à-dire que c'est à la fois le contenant et le contenu. Donc, c'est très intéressant. Et effectivement, il y a deux grands types de croûte, celle qui se mange et celle qui ne se mange pas. Mais en tout cas, on préserve l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur des croûtes. Ça donne le moelleux, ça préserve le moelleux, ça préserve les goûts. Et c'est une papillote un peu à l'ancienne, en fait.
Oui, puis c'est ça en jette, comme on dit. Alors, c'est vrai, vous venez de le dire, il existe deux sortes de croûtes, hein, celles qui se mangent et celles qui ne se mangent pas. On va commencer, tiens, par celles qui se mangent. Et vous nous avez apporté un bel exemple de croûte qui se mange. Qu'est-ce que c'est? Tiens, on peut le voir sur Europe 1.fr.
Alors ça, c'est un pâté de gibier, ça. C'est un pâté de gibier. Alors j'ai la chance d'avoir des moules un petit peu à l'ancienne, comme
ça.
Biche, canard et foie gras.
Biche, canard et foie gras. Quel genre de croûte autour? Alors, c'est comme un pâté croûte un peu. Hein.
C'est un pâté croûte. Hein. C'est un pâté croûte. Une croûte plutôt contemporaine avec farine, fécule, œuf et beurre. Je dis contemporaine parce que traditionnellement, on y mettait plutôt que de la farine et un gras en général. Ça peut être du gras de veau ou du gras de cochon.
Du saindoux. Hein.
Oui, du saindoux, absolument. Alors aujourd'hui, on fait des croûtes beaucoup plus légères. Oui. On est moins sensible à l'idée du transport, peut-être. En tout cas, il faut que la croûte soit équilibrée avec la farce à l'intérieur.
On m'a dit que le saindoux permettait de garder une croûte croustillante plus longtemps.
Pas forcément vrai, mais en revanche, ça permet d'étanchéifier la croûte elle-même. Hein.
Vous dites pâté croûte ou pâté en croûte, alors?
Le piège.
Le débat.
Grand débat. Non, moi, je dis pâté en croûte. Hein. Pâté en croûte.
Oui, on s'est renseigné en préparant cette émission. En fait, on dit pâté croûte du côté de Lyon et de Reims, et le reste de la France dit pâté en croûte, effectivement. Mais c'est vrai que c'est fou comment cette belle charcuterie noble est revenue sur le devant de nos tables, au restaurant et un peu partout, Charlotte Langrand.
Moi, je dirais que, évidemment, ça existe depuis extrêmement longtemps, mais il y a quelques années, il y a eu un retour en force du pâté en croûte grâce à son championnat du monde qui a fait un carton absolu. Du coup, il y en a absolument partout, même au restaurant. Et parce que c'est un boulot à la fois, c'est peut-être pas le plus technique, mais en tout cas c'est très rigoureux, ça demande beaucoup de savoir-faire et surtout beaucoup un temps long, on peut mettre 3 à 4 jours à faire un pâté en croûte, parce que ça demande à la fois un savoir-faire pâtissier et charcutier et cuisinier. En fait, ça amalgame absolument tous les savoir-faire de la cuisine,
regarde,
voilà, c'est ça.
Oui, ça fait partie des morceaux un peu copieux de la cuisine française. Il faut s'y prendre à l'avance, mariner ses viandes, faire sa pâte. Et puis, comme tout ce qui est pâté, il faut aussi un temps, notamment dans le cas des pâtés croûtes en croûte, froid. Il faut un petit temps de maturation derrière pour pas le manger
comme
trop
foie gras,
frais.
Pour que les arômes s'échangent.
Phénomène d'osmose.
Donc voilà, exactement. Là, vous êtes venu avec cette merveille effectivement giboyeuse. Donc, redites ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors là, c'est biche, canard et foie gras.
Biche, canard et foie gras. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un pâté en croûte comme celui-ci, c'est un contenant qui permet de transporter facilement. Vous êtes venu avec, c'était pas trop compliqué en plus.
Non, c'est un beau cadeau. Je pense qu'à l'origine, en fait, c'était ça. Hein. C'était vraiment le contenant, ça servait. Et on dégustait pas forcément la croûte, alors qu'aujourd'hui, la croûte fait partie intégrante du pâté.
Oui, parce que, en fait, la croûte, elle est très vieille. Hein. Dès l'Antiquité, on maîtrisait déjà la croûte et elle servait, jusqu'au Moyen-Âge notamment, à préserver les aliments. C'était quelque chose qui permettait d'éviter l'oxydation. Elle n'était pas bonne parce qu'elle était sèche. Justement, on n'y mettait pas de matière grasse, donc elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et c'est beaucoup plus tard, avec la Renaissance et avec le développement des techniques de pâtisserie qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la pâte feuilletée, que la croûte va devenir une partie intégrante de la cuisine et qu'on va la consommer.
La gelée est importante, non, aussi?
Alors, la gelée, effectivement, ça apporte de l'humidité. Souvent, on dit
que ce soit trop sec. Hein.
Qu'est-ce que c'est bon?
Voilà, exactement. Bah, c'est le principe des croûtes. Hein, qu'on les mange ou qu'on les mange pas, l'intérêt d'une croûte, c'est de conserver l'humidité à l'intérieur du produit et éviter, effectivement, la déshydratation.
Vous avez raison, il y a une sorte de moelleux, effectivement, il y a une belle humidité et il y a un équilibre entre la douceur et le caractère, je trouve, dans ce pâté croûte qui est incroyable, là.
Bah, là, c'est aussi le principe de... Alors là, pour le coup, c'est le cuisinier qui parle. Je cherche un équilibre entre les saveurs et je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop giboyeux, justement, mais plutôt travailler sur l'équilibre.
Et puis, il faut un rapport viande-croûte aussi qui soit très équilibré. Là, on a cette croûte qui est croustillante, mais qui est fine, généreuse en viande. Tout l'inverse des pâtés en croûte qu'on achète en grande surface où il n'y a que de la croûte et rien à manger dedans.
Et beaucoup de nitrites.
Je suis contente, moi, que ça se soit réapproprié, enfin que les cuisiniers et les bons traiteurs se la réapproprient, parce que ça avait été un petit peu kidnappé par les industriels et c'était le pâté en croûte, c'était devenu une pâte pâteuse, une farce un peu sans goût ou un peu trop rose à mon goût avec un peu trop de nitrite.
C'est une belle revanche de l'artisanat.
C'est une belle revanche, je trouve.
Vous avez raison. Oui. Ouais. Il y a un classique en croûte qui revient aussi beaucoup. Hein, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est le bœuf Wellington, qui est une recette qu'on peut faire facilement à la maison. Nos éditeurs, tiens, si vous voulez faire ça ce week-end, un filet de bœuf qu'on achète chez le boucher, hein, Eric Trochon.
Oui, ça reste quand même un plat, un tour de force, un plat un peu technique. Il y a quand même quelques règles à respecter. D'abord, il faut un filet de bœuf un peu maturé, pas trop humide, parce qu'il va avoir tendance à relâcher l'humidité à l'intérieur de la croûte en cuisson. Une jolie brunoise, enfin une jolie duxelle
de champignons,
quelques truffes.
Une crêpe.
Alors la crêpe, c'est le petit truc, ça. C'est le petit truc que les cuisiniers ont trouvé pour capter l'humidité, en fait, et éviter la détrempe de la pâte. Mais ça marche aussi sur le poisson, par exemple. Hein. Quand on met des choses en croûte, cette petite crêpe va pomper l'humidité rejetée par le produit et éviter de détremper la croûte, parce que c'est la problématique en fait.
Hein. C'est bientôt la Chandeleur, il faut faire des crêpes et des bœufs Wellington, et c'est une pâte feuilletée qu'on met autour hein, en robe du bœuf Wellington.
Absolument, c'est une pâte feuilletée, bien que effectivement, historiquement, il semblerait que ce ne soit pas une pâte feuilletée. Mais bon, c'est comme ces grossettes très très emblématiques, on peut discuter pendant des heures de savoir...
Il faut bien colorer la viande avant de l'encrouter.
Absolument, bien la colorer, bien la rissoler, l'avoir au départ effectivement bien maturée, bien sèche, hein, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, bien la colorer pour justement fixer cette humidité à l'intérieur, et ensuite procéder par couches, méticuleusement, et fermer également avec grand soin sa pâte feuilletée autour.
Autre croûte qui se mange et qu'on a vu dans un film, il y a un bel hommage, hein, c'est la fameuse soupe VGE de Paul Bocuse qui a été faite lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur en 1975 à l'Elysée. On casse une belle croûte, c'est une croûte feuilletée hein, aussi, je pense.
C'est un feuilletage.
Par-dessus ce bol en porcelaine. Là.
Voilà, c'est le principe, ce qu'on appelle les montgolfières en fait, c'est-à-dire sous le dégagement de la vapeur de la soupe, le feuilletage va gonfler, va former comme une montgolfière.
Oui, voilà. De Funès à la fin de L'Élu la cuisse, il a une soupe qui ressemble à celle-ci, quand il retrouve sa montre à l'intérieur, s'est inspirée de la soupe VGE.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table avec le chef Éric Trochon du restaurant Solstice à Paris dans le 5e. On parle cuisson en croûte ce matin. Il est aussi formateur à l'école Ferrandi, la fameuse école Ferrandi dans le 6e arrondissement de Paris. Alors Éric, après les croûtes qui se mangent, parlons des croûtes qui permettent une cuisson à l'étouffée, une cuisson douce. C'est une technique vieille comme le monde, ou du moins comme le feu, on pourrait dire, hein, presque. Hein.
Oui, on peut penser que n'ayant pas de peau hein, en argile, les premières cuissons étaient faites dans une boule d'argile, une boule de terre recouverte de braise, et ensuite on laissait tout ça tranquillement le temps que ça cuise. Ça préserve l'humidité, ça évite le dessèchement et on peut faire autre chose pendant ce temps-là.
Et c'est ça. Ouais.
Aller chasser le mammouth ou je sais pas, cueillir des baies.
C'est ça, voilà. Ou des fleurs pour sa femme.
Olivier Pouls fait ça très souvent.
Oui. Croûte de
chasser
riz.
Le mammouth, oui.
Croûte de ça, je croyais chercher des fleurs. Croûte de riz, croûte de sel, d'argile et même de cire. Hein. Les enrobages ne manquent pas. C'est vrai que vous le dites, c'est un ustensile de cuisson primitif. Parlons de la croûte d'argile. Tiens, qu'est-ce qu'elle apporte?
Elle enferme le produit de façon hermétique, donc il cuit dans sa propre humidité. Alors, petit débat, effectivement, y a-t-il une concentration? Non, à partir du moment... Dans le principe, s'il n'y a pas d'évaporation, il n'y a pas de concentration. Il y a juste simplement une meilleure symbiose des aliments, enfin des aliments entre eux à l'intérieur du produit et une cuisson à l'étouffée.
Et un moelleux peut-être.
Il y a un
aussi,
moelleux, hein. Mais c'est exactement le principe d'une papillote. Hein. C'est, voilà.
Ouais, j'ai une question un peu provoque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs qui se lancent là-dedans. Alors, ils vous expliquent même d'où vient l'argile et tralali et tralala. Le storytelling est super. Mais en réalité, l'apport gustatif entre ça et une cocotte luthée ou une papillote bien fermée,
Alors, ça dépend. Ça dépend. Alors là, je m'inscris un peu en faux. Effectivement, sans savoir qui est le papa de l'argile ou la maman de l'argile, c'est pas la question, mais surtout que ce sont des argiles souvent traitées industrielles et que voilà, il y a pas de terroir derrière. Hein. Mais en revanche, ça donne un léger goût de terre et vous avez un aspect parfois un peu crayeux à ce niveau-là. C'est intéressant si vous n'enfermez pas au préalable le produit. Dans quelque chose d'hermétique avant de le mettre dans l'argile.
On le met dans de la gaze, par exemple.
Oui, on met du papier sulfurisé ou quelque chose
voilà
comme ça.
Voilà, ouais. Si vous le mettez en papier sulfurisé, effectivement, le transfert de goût sera minimum. Mais si vous le mettez dans des feuilles, là, ça devient vraiment intéressant.
Des feuilles de quoi?
De vigne, par exemple, de noyer.
Okay.
Hein, ou de figuier.
De figuier, oui, non, c'est feuilles de vigne, feuilles de figuier, feuilles de noyer. Et là, vous avez effectivement un transfert de saveur qui est vraiment intéressant et vous sentez la terre, clairement.
Vous avez beaucoup travaillé, Éric Trochon, sur l'argile à Ferrandi avec vos élèves. Et je crois que vous avez fait des œufs en argile qui contenaient des cailles.
Absolument,
c'est ça ?
C'était une prestation. On a travaillé sur le design culinaire avec Marc Bretillot et l'école de Reims. Et effectivement, on avait recréé l'œuf primitif qui est celui qui contenait une caille. C'était pour la manger, donc c'était pas grande chose.
Il y avait un petit goût terreux comme ça qui avait
absolument,
été communiqué.
Absolument, parce qu'on
ne l'avait
pas protégé, effectivement. On avait souhaité avoir quelque chose le plus traditionnel possible, en tout cas avec un transfert de goût.
Il y a un livre consacré aux cuissons en croûte,
oui,
Charlotte.
Oui,
hein.
oui, si vous voulez vous y mettre justement, la cuisson à l'argile de légumes racines dans l'argile, c'est dans ce livre aussi. C'est un très beau livre de Thomas Feller chez Marabout. Ça s'appelle tout simplement En croûte. Et en fait, c'est assez complet. Vous aurez les trois façons de faire des croûtes. Les croûtes tradies avec du pâté en croûte, évidemment, mais aussi des recettes sucrées. Vous avez des croûtes contemporaines et des croûtes du monde, parce qu'on ne fait pas que ça. En France, des sausage rolls, de l'ananas rôti en croûte de sel, par exemple. Ça vous inspire ?
Oui, oui, la croûte de sel, c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même relativement bien maintenant. Deux types de croûte de sel, le sel à mélanger avec du blanc d'œuf, et le deuxième, quand on veut un peu de tenue, toujours dans cet esprit d'avoir un ustensile de cuisson, c'est sel, farine et blanc d'œuf, avec des aromates pour parfumer l'ensemble. Bah, comme quoi, il y a bien un échange entre la croûte et l'intérieur. Hein.
Moi, j'aime bien cuire des boules, des légumes boules, des betteraves ou des céleris en croûte de sel. Je trouve qu'il y a ce moelleux quand même qui surgit dès qu'on casse la croûte.
Absolument. Oui, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour cuire dans son propre jus, sa propre humidité.
Et les poissons en croûte aussi. Alors, c'est vrai bien que sûr. Moi, je fais des poissons de temps en temps en croûte. Et quand vous la portez sur la table, il y a un côté spectaculaire qui est agréable. Mais souvent, la première question, c'est les gens, ils se disent, mais ça va être trop salé. Ils ont peur de ça.
Alors, c'est pas trop salé si vous cassez la croûte, pour le coup, tout de suite à la sortie du four. En revanche, je vous déconseille, pour avoir fait l'expérience, de laisser, par exemple, si vous faites des légumes en croûte de sel, vous les laissez une heure dehors à attendre. Voilà. Et là, effectivement, le sel va pénétrer à l'intérieur du légume. Donc, c'est pas génial. En revanche, si vous cassez la croûte tout de suite en fin de cuisson et vous extrayez vos légumes, votre poisson, etc., il n'y a aucun risque.
Mais il faut beaucoup de sel, hein, parce que ouais, quand vous avez un joli bar qui fait 1,5 kg, 1,7 kg, il faut quelques kilos de sel pour le recouvrir.
Et un sel un peu humide, hein, comme vous le disiez, c'est même si on met du blanc d'œuf, mais le gros sel gris de Guérande convient bien, par exemple.
Oui, Guérande au Noirmoutier, il n'y a pas de raison.
Et on peut mettre des aromates aussi.
C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée, effectivement, de parfumer ce sel avec des aromates. Thym romarin, bien sûr, laurier, genièvre, pourquoi pas, cumin, enfin ce qu'on veut.
Presque comme des marinades, quoi.
Absolument, absolument.
Vous nous avez dit aussi, en préparant cette émission, que vous étiez en train de travailler sur des cuissons en croûte de cire.
Oui, là, ce moment, on est en train de travailler sur de la cire. Bon, j'ai la chance d'aller beaucoup en Corse et de travailler avec des amis qui ont des abeilles là-bas et qui ont pu me fournir de la cire. Parce que c'est assez compliqué d'avoir de la cire en grosse quantité, dans la mesure où, en général, elle est recyclée dans les ruches directement pour faire les alvéoles. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de faire des tests en cuisant, toujours un petit peu inspiré par mon ami Marc Bretillot, où on avait cuit de la poitrine de porc dans un bain de cire pendant 4 heures. C'était assez extraordinaire. Et quand on la sort, on peut la laisser refroidir. Il va se former autour d'une croûte. Et ensuite, on va ouvrir cette cire, un peu dans l'esprit d'un fameux fromage d'autrefois où on avait juste une croûte de cire autour.
Ah, c'est ça. Et ça permet de garder la chaleur du coup aussi, là, peut-être.
Alors, ça permet surtout un pochage très, très constant, très doux. Ça permet de garder la chaleur et ça parfume un peu comme une rogue d'œuf dans le cas de cette préparation grecque.
La poutargue.
La poutargue.
Ouais, c'est ouais. Ça. Ah oui. Ah,
ça parfume note, vraiment beaucoup.
Ça parfume vraiment ouais. beaucoup. Ouais. Oui, et puis le cochon, il aime bien les parfums hein, qui
peuvent
le jouer.
Graphique, même... ça, hein, le graphique, ouais, c'est ce goût de cire. Alors là, je le teste sur des poissons, c'est un peu plus délicat à cuire. La cuisson est vraiment très sensible, mais le résultat est vraiment enthousiasmant.
Mais vous reviendrez nous en parler, Éric Trochon.
Et vous vous en faire déguster, surtout.
Avec plaisir. C'est un bonheur de vous avoir à cette table. Éric Trochon qui a son rond de serviette hein, à la table des bons vivants. Et on peut goûter sa cuisine dans le restaurant Solstice, 45 rue Claude Bernard à Paris, dans le 5e arrondissement. Et si vous voulez maîtriser les sauces, ne cherchez pas, il n'y a qu'un seul livre. C'est le sien, qui s'appelle
Merci.
Sauce, qui est paru aux éditions...
Du Chêne.
Les belles éditions du Chêne, absolument. Merci beaucoup, Éric Trochon.
Merci à vous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Super Nana, la boîte de jazz, joueur de blues. Il nous accompagne avec ses succès depuis des décennies. Chanteur et comédien, il est Mr Swing pour les intimes. Bon vivant et cuisinier à ses heures perdues. Il fait une escale ce midi chez nous. Et on est heureux parce qu'il est en plein cœur d'une grande, grande double tournée. Il va nous expliquer tout ça. Michel Jonas est à notre table. Bonjour Michel.
Bonjour. Bonjour madame, monsieur.
On est ravis de vous recevoir à cette table des bons vivants avec Charlotte Langrand et Olivier Pouls.
Ah, Charlotte.
Voilà, la fameuse Charlotte Langrand que vous pouvez lire dans le journal du dimanche.
Ma mère s'appelait Charlotte.
Ah, très bon prénom.
Très beau prénom. Vous êtes en tournée avec deux spectacles,
oui.
Ce qui n'est pas commun. Hein. Un spectacle piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo jusque fin mai. Liège, Mons, Pont-à-Mousson.
C'est en Belgique, ça.
Oui, c'est chez vous. Et puis Groove en bande ce soir à Montpellier par exemple
à ce soir eh, ben ah oui, oui.
Ben oui, je sais qu'il faut qu'on vous libère pour prendre le train.
Je sais pas dans quel état ils vont trouver Michel Jonas ce soir à Montpellier.
On va faire attention. Et donc double tournée, comment ça va? Vous êtes bien occupé alors Michel
oui,
Jonas
oui, oui. Hein ben, c'est vrai que le piano voix avec Jean-Yves, on est ensemble depuis 8 ans maintenant. En fait, on a commencé notre carrière ensemble, hein, à Jean-Yves et Manu Katché. Et on fait ce piano voix depuis 8 ans. C'est très, très agréable. On fait des plus petite salle qu'avec le gros spectacle Groove. Mais voilà, c'est deux exercices différents, mais très complémentaires. Oui, ça me fait plaisir. Ça.
Oui, et puis c'est vrai que quand on vous voit sur scène, on a l'impression que vous êtes de grands enfants, contents de vous retrouver, oui. de jouer ensemble. C'est le cas. Il n'y a jamais de dispute, il n'y a pas d'engueulade.
Non. Hein, c'est le cas, c'est vrai, c'est le cas. Je crois que je me suis programmé pour ne pas perdre le plaisir de faire de la musique. Quand j'ai commencé, quoi, à l'âge de peut-être 17 ou 18 ans, j'étais... c'était les années 60. Hein. Et donc j'allais au Golf Drouot d'Henri Leproux où tous les groupes de rock se produisaient. Et j'ai eu un tel plaisir de faire de la musique avec d'autres que je me suis dit, ce truc-là, je ne veux pas le perdre. Et effectivement, je crois que je me suis bien programmé parce que malgré mon âge, à chaque fois que je monte sur scène, j'ai 18 ans et c'est toujours le même plaisir. Et c'est vrai que la musique, ce n'est pas simplement des notes comme ça sur une partition où il y a un lien qui se tisse entre les musiciens et le chanteur, etc. Et ça, ce truc-là, on l'a vraiment. C'est-à-dire qu'on est heureux de se retrouver. C'est pas... On ne peut pas faire de la musique par devoir, vous voyez, parce qu'on a un contrat ou un truc comme ça. Et avec les musiciens, on a vraiment ça aujourd'hui, oui, ce même plaisir partagé de faire de la musique. Partagé, bien évidemment, avec le public aussi. Mais on a un réel plaisir, parce qu'on ne peut pas tricher avec ça, vous voyez. Si on le faisait comme ça, parce qu'il faut le faire, ça marcherait
pas. Mais c'est un peu comme la cuisine, on ne peut pas tricher. Quand on aime faire la cuisine, on aime faire la cuisine.
Exactement.
Vous aimez faire la cuisine, hein, Michel?
J'aime faire la cuisine, oui, c'est vrai. J'adore ça. Je pense que j'ai été comme beaucoup motivé par une grand-mère, voilà, une grand-mère que j'ai connue, qui était la mère de mon père, donc, et qui était tout le temps dans sa petite cuisine et qui était une très bonne cuisinière. Et donc, la cuisine, pour moi, c'est vraiment le symbole de la famille, le symbole de on se retrouve autour d'une table, et puis ça peut. Ça durait des heures. Le repas, c'était à Drancy, donc on se réunissait. C'était le dimanche, on se réunissait autour du repas familial. Et c'était l'amour. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été très symbolique de l'amour qui relie les êtres humains, le repas.
Alors justement, petit rituel dans cette émission, je vais vous demander votre goût de la semaine. Ça peut être un restaurant, une recette, un plat que vous avez mangé chez des amis. Quel est votre goût de la semaine, Michel Jonas?
De la semaine, de cette semaine-là?
De cette semaine. Là, oui. Vous avez mangé au restaurant, vous avez mangé chez vous, vous avez peut-être
on
un produit.
On a mangé au restaurant, effectivement, il y a deux jours, avec deux amis très chers, Xavier et Simon, et on a été dans un restaurant indien qui se trouve rue Kel, vous savez, dans ce quartier de la rue du Faubourg Saint-Denis, où il y a tous les restaurants indiens et toutes les épiceries
absolument,
indiennes, etc.
Absolument, oui, près du passage Bandit. Là,
voilà, ouais. Et on a été dans un petit restaurant qui est rue Kel, et qui est vraiment, parce que moi j'ai été plusieurs fois en Inde, j'adore la cuisine indienne, et on a été dans un petit restaurant, alors je ne me rappelle plus du nom, mais il y en a deux comme ça, dans cette petite rue, et qui est vraiment, on a l'impression d'être à Pondichéry, quoi. Vous voyez, on est serrés les uns contre les autres, c'est pas une cuisine très raffinée, rien, mais on mange les choses, les dossas comme là-bas.
Il y a des parfums, c'est ça qu'on aime.
Parfums, hein. Oui.
Alors vous êtes amis avec des grands chefs étoilés, hein, comme oui. Guy Savoie, Gérald de Passeda qu'on salue, qui nous
oui.
écoute d'ailleurs.
Ah oui
ouais, et ah justement, bah, Charlotte Langrand qui est à côté de vous, on va reparler de vos amis chefs, mais avant, Charlotte va nous parler d'un film qui sort mercredi, qui s'appelle The Chef de Philippe Barantini. Ça se passe dans les cuisines d'un restaurant, Charlotte, et vous l'avez vu en avant-première pour La Table des Bons Vivants.
Oui, et pour une fois, on ne fait pas une soirée ciné puis resto, mais un resto au ciné, puisque The Chef nous plonge dans la soirée d'un chef londonien pendant le Magic Friday. C'est le vendredi qui précède Noël et c'est la soirée la plus fréquentée de l'année. Donc, pour une fois, nous sommes de l'autre côté du pass. Déjà, grâce à une prouesse technique, hein, le film est un seul et même plan séquence qui dure pendant 1h34.
Ah oui,
donc, on suit sans aucune interruption le chef Andy Jones qui va virer dans sa soirée, enfin, dans son entrée, de son entrée au resto, pendant toute la soirée, qui va vraiment virer petit à petit au cauchemar en cuisine. Ça s'arrête jamais. Mais on est en immersion au cœur de la pression des fourneaux. On passe du plomb, de la plonge à la salle, du grill au bar, du local poubelle au commis, au serveur, avec le coup de feu qui monte, les coups de gueule aussi et les ennuis qui s'accumulent sur ce
c'est
pauvre
ça.
Chef.
Ouais, c'est loin de l'image glamour qu'on nous sert habituellement sur le métier. Hein.
C'est ça, c'est loin, c'est totalement loin. Ne vous attendez pas ici à glaner quelques recettes. Hein. Le propos du film, c'est pas le côté culinaire ni créatif, mais le revers de la médaille, c'est celui de la gestion du restaurant. Le chef doit gérer en salle des critiques gastronomiques pointilleux, des clients allergiques, d'autres racistes. Il a en cuisine un plongeur paresseux, une sous-chef débordée, une directrice de salle incompétente, un inspecteur de l'hygiène un peu trop zélé, sans compter que sa vie privée explose parce que son métier est chronophage et qu'il a développé quelques grosses addictions pour tenir le coup.
Ouais, ça fait beaucoup quand même tout ça.
Oui,
hein.
Ça fait beaucoup. C'est beaucoup pour une une seule personne, il y a un phénomène d'accumulation, de concentration en une seule soirée de tous les ennuis que peut avoir un chef en général dans sa carrière. Mais au moins, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même très très bien joué. Il y a du rythme et surtout, c'est du vécu. Mais parce que le réalisateur, il a travaillé dans la restauration pendant 12 ans, il sait de quoi il parle. Et il a voulu dépeindre ce qu'il a vu, cette autre cuisine à l'opposé des fourneaux glamour qu'on nous sert à la télévision. Alors, je vous vois venir. On pourrait lui dire que certains fourneaux ne sont plus comme ça aujourd'hui, que les mentalités évoluent, surtout dans la nouvelle génération. Mais c'est quand même une réalité qui existe encore, hélas. Ce n'est pas l'image idéale qu'on en a. Et que cette piqûre de rappel de ce film, The Chef, est vraiment la bienvenue à l'heure où il y a énormément de reconversions et où les chefs sont vraiment devenus des stars absolues.
Mais c'est un film, hein, ce n'est pas un reportage.
C'est un film, ce n'est pas un reportage, mais c'est vraiment très réel. Hein. Et ce plan séquence est
très
génial.
Très inspiré de faits réels, pour le coup.
Michel
très
Jonas, inspiré. Vous qui aimez la cuisine et les chefs cuisiniers, vous êtes acteur également, vous auriez aimé jouer le rôle d'un chef cuisinier par exemple?
Ah oui, j'aurais adoré ça.
Ah
oui?
Ah oui, c'est encore possible.
Ça, vous verrez bien avec une toque, c'est crédible.
Vous seriez inspiré de qui alors?
Ah ben peut-être de mon ami Passeda, que j'adore, depuis que je connais depuis des années.
Gérald Passeda, du Petit Nice à Marseille.
Du Petit Nice, la première fois que j'ai été au Petit Nice, parce que quand je vais à Marseille, je vais au Petit Nice, qui est un hôtel magnifique d'ailleurs aussi, vu sur la mer, etc. Et la cuisine est géniale. Mais la première fois que j'y étais, c'était son père qui était en cuisine. Et lui, je le voyais, il hésitait, il ne savait pas s'il allait faire de la musique, il avait envie de jouer de la guitare, de faire du rock'n'roll. Et puis finalement, c'est lui qui a eu cette troisième étoile.
Absolument.
Voilà.
Et lui, c'est vraiment un festival autour des poissons.
Des
il
poissons,
a une façon de travailler.
Alors
le loup
façon Passeda, qui est une vieille recette de la grand-mère.
Lucie.
C'est magnifique, c'est simple, c'est tellement bon. Enfin, c'est simple. J'ai un jour vu la recette, c'est ça. Vous savez, quand vous êtes devant, vous dites, bon, ben voilà, il y a un morceau de loup avec des truffes, avec des rubans de courgettes, une sauce avec des tomates concassées, etc. Et quand vous regardez la recette, vous comprenez que c'est pas...
C'est du boulot.
Ouais, voilà.
C'est comme la chanson.
Salut Pépita, où est le shérif que je la sonne?
Belle marquise, maîtrine, belle baronne.
Ah, quel pied, qu'est-ce que ça fait du bien. On en parlait pendant la chanson avec Olivier Pouls et Michel Jonas et Charlotte Langrand. Oui, il y a des plats signatures chez les grands chefs.
Ah oui, il y a des chansons signatures.
Et il y a des chansons signatures, joueurs de blues.
Que l'on joue toujours avec le même plaisir d'ailleurs, qu'on redécouvre selon la formation que l'on a. Mais je la fais aussi bien en piano-voix avec Jean-Yves à deux, comme ça, qu'avec le gros spectacle, avec tous les musiciens.
Mais vous vous enlacez pas, parce qu'il y a des chefs qui disent que leur plat signature, il y a un moment, ils en ont ras-le-bol de le refaire.
Ah oui, mais moi, j'ai toujours dit ça, que mon critère pour quand je prépare un nouveau spectacle, c'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. En fait, c'est pas possible de chanter des choses parce que vous savez que, pour moi, que si je sais que les gens ont envie d'entendre, je sais pas, les vacances au bord de la mer, ou dites-moi, ou des choses comme ça anciennes que j'ai plus envie de chanter, je ne peux pas le faire. Parce que on va le sentir, ça. Vous pouvez
mais en
pas
temps,
cuisiner.
C'est terrible parce que les gens, ils sont un peu frustrés s'ils
entendent
pas ça.
On cuisine avec plaisir, on chante avec plaisir, sinon ça marche pas.
Joueur de blues que vous chanterez ce soir à Montpellier avec votre bande Groove, c'est le titre du spectacle.
C'est ça.
Vous êtes en tournée avec deux spectacles, le piano voix, vous venez d'en parler avec Jean-Yves D'Angelo jusqu'à la fin du mois de mai, et puis Groove en bande ce soir à Montpellier jusque fin mars avec Strasbourg, Pau, je crois Nantes, Biarritz, des belles villes où on mange bien aussi, j'ai remarqué.
Ah oui, ça c'est vrai.
Est-ce que ça compte dans les choix des lieux
ça compte
tournés.
Surtout dans le choix des hôtels où je m'arrête. Oui.
On a fait un petit inventaire de vos chansons, cher Michel Jonas, et le goût et les souvenirs d'enfance, on a remarqué avec Loïc Vimard, notre réalisateur, sont souvent présents. Alors pour se mettre en bouche, c'est encore l'heure, tiens, pour certains qui en sont peut-être au petit-déj, un petit chausson pomme.
Ça, j'avais 9 ans, j'allais aller coacher les grands, enfin grand, j'y pense ça pour moi. Parce que moi faudrait des échasses, un truc que j'ai jamais su faire, c'est lâcher la main à ma mère pour tenir celle du temps qui passe. C'était un matin comme les autres, mais je me souviens d'aucun autre. Que les souvenirs m'emportent, il y avait devant la porte de l'école mon instituteur et cet homme attendaient ma petite personne. Pour me donner que Dieu lui rende, c'était bien lui dans cette offrande. Tiens, il est tout chaud bonhomme. Un chausson aux pommes, pommes, un chausson aux pommes.
Faut le faire. Faire swinguer le chausson aux pommes.
Ouais. J'ai une histoire avec ça, c'est parce que l'école m'angoissait un peu. Et cet instituteur qui était le fils de Maurice Thorez, vous vous souvenez de Maurice Thorez ?
Bien sûr, grand résistant.
Voilà, c'était son fils, mon instituteur. Et il avait demandé un jour à ma mère ce que je mangeais le matin avant de partir, et je mangeais rien. Je pouvais pas manger. Je sais pas, j'avais une boule au ventre. Et effectivement, un jour, il m'a attendu devant l'école, c'était donc à Drancy. Et il m'a attendu avec un chausson aux pommes. Et je me souviens être rentré dans la cour, parce que comme il m'attendait, on avait pris un certain temps, on avait été à la boulangerie, il m'avait demandé ce que je voulais, j'avais dit un chausson aux pommes. Et on était rentré dans la cour de cette école communale, donc. Les autres étaient déjà en classe, vous voyez. Et moi, j'avais une fierté, il me tenait par la main. Et dans l'autre main, j'avais ce chausson aux pommes. Je pense que c'est un souvenir incroyable. Et puis, donc, il y avait un symbole avec ce chausson
aux
pommes.
Vous en mangez des chaussons aux pommes, ça vous fait toujours le même effet.
Il y a une très belle phrase. J'adore cette chanson, moi. Je ne voulais pas lâcher la main de ma mère pour celle du temps qui passe.
Oui, c'est vrai.
Elle est magnifique, cette phrase.
Merci, oui, je crois que j'étais très dans les jupes de ma mère.
Ouais, mais c'est une très belle phrase. Autre allusion gourmande, tiens, qu'on connaît tous. Ah, oui. On l'a tous chantée, cette chanson. Les fameuses glaces à l'eau.
Alors, regardait les bateaux,
les vacances au bord de la mer.
On suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant.
Alors, moi, une question que j'ai toujours voulu vous poser. Oui. Vous êtes en face de nous aujourd'hui.
Quel parfum de glace à l'eau.
Exactement, elles ont quel goût, les glaces à l'eau.
Vous savez, c'était les petits bâtonnets. Ouais, c'est drôle parce que le texte est de Pierre Gross. Hein. Moi, j'ai fait la musique de cette chanson, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Oui, vous savez, les petits bâtonnets où il y avait beaucoup de colorants là-dedans,
oui,
certainement. Hein, au citron, à la framboise, etc. Mmh. Et ça se passait donc à Cannes. Et les îles, c'était les îles de Lérins, donc Saint-Honorat, Sainte-Marguerite. Et je me souviens qu'avant de prendre le bateau, qui nous amenait comme ça sur les îles, effectivement, on s'achetait une glace. Mais on s'achetait aussi il y avait des baraques et on achetait des pains bagnats. Ah, on prenait les pains bagnats et on partait sur les îles. C'est un souvenir incroyable.
Et ben voilà, ça c'est vrai que cette chanson, on l'aime. Oui. Cette voix, ce swing, comment vous avez découvert cette façon de chanter qui vous est tellement propre, tellement particulière? Vous l'avez travaillé, c'est venu naturellement.
Non, la voix, on l'a.
Oui,
ce swing, vous savez, j'ai eu des sources d'inspiration différentes. Je l'ai souvent raconté, ça. Mais bon, il y avait la musique tzigane de mes grands-parents qu'on écoutait à la fin du repas, justement. On sortait le vieux tourne-disque et on écoutait la musique hongroise, etc. Il y a eu la chanson française parce que mes parents adoraient la chanson française. Mon père m'a amené voir Piaf sur scène. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Vous avez vu Piaf sur scène? Impossible.
Évidemment.
Charlotte, enfin. Ah oui, Barbara. Ah, c'était déjà bien. Ouais. Mais moi, j'ai vu Piaf, c'était mon premier spectacle que je voyais. Piaf, Brel, Brassens, etc. Mais ce qui, moi, m'a donné envie de faire de la musique, c'est quoi? C'est le rock'n'roll, c'est le blues. Parce que d'un seul coup, arrive, dans les années 60, une batterie, une basse, une guitare électrique, etc. C'était ma musique. Moi, je respectais beaucoup les aînés et cette grande tradition de la chanson française avec les histoires qu'on raconte, les émotions, l'importance du texte. Mais ce qui était ma musique à moi, adolescent, c'était le rock'n'roll et le rhythm and blues, donc ça ne m'a jamais quitté.
Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un pouvoir évocateur dans la nourriture quand on dit les petits bateaux, les glaces à l'eau. Tout de suite, on a
la force des images, on les fabrique, les images. Oui.
Et justement, moi, j'ai été bouleversée par l'un de vos spectacles qui s'appelait Abraham. Et je me demandais si vous aviez aussi des souvenirs de nourriture, vous incarniez votre grand-père. Est-ce que vous avez des souvenirs culinaires de cette culture juive?
Ce grand-père que j'incarnais, puisque j'ai joué le père de ma mère, ça a fait bizarre à ma mère. Un jour, elle m'a dit attends, si je comprends bien, tu vas jouer mon père. Je lui ai dit oui. Ce grand-père-là, je ne l'ai pas connu puisqu'il a été déporté avec sa femme et quatre de ses enfants. Et j'ai voulu raconter à travers lui, vous savez, ça ne veut rien dire qu'il y a eu, quand on dit il y a 6 millions de juifs qui ont été déportés, ça ne veut rien dire. Si vous racontez une vie, ça veut dire quelque chose.
Oui.
Parce que c'est une vie, plus une vie, plus une vie, plus une vie. Donc malheureusement, ce grand-père, non, je ne l'ai pas connu. J'ai des souvenirs de cuisine hongroise, puisque ma grand-mère, celle que j'ai connue, c'est-à-dire la mère de mon père, oui, celle-là, je l'ai connue avec ses goulaches, avec ses choses comme ça. Oui, ça, j'ai des souvenirs de cuisine hongroise, puisque je suis d'origine hongroise.
Des brocolis, des épinards, j'ai tout pris, tout ce qu'il y avait sur le marché. Donc, vous voyez, on est en pleine forme.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Continuez à manger ce qui vous fait plaisir, la vie est trop courte.
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Merci d'être là, les amis. Nous sommes ensemble depuis 11h. Et c'est vrai que les audiences sont bonnes. Vous êtes plus de 650 000 à nous écouter. On a une très belle progression depuis les derniers sondages, depuis un an.
Donc, je l'ai pas raté.
Olivier n'arrête pas d'ouvrir des bouteilles depuis 11h.
Olivier Bouls.
Avec plaisir et avec modération. Et on se réjouit parce qu'on est gâtés aujourd'hui. Michel Jonaz est notre invité. Vous êtes en tournée avec deux spectacles, Michel. Oui. Piano-voix, on le disait, avec Jean-Yves D'Angelo jusque fin mai. Liège, Mons en Belgique, Pont-à-Mousson, Vittel, Sedan, Groove, votre spectacle en bande là, hein. Vous êtes nombreux sur scène là.
Bah, on est pas mal, on est 8.
Ça fait du monde ce soir à Montpellier, jusque fin mars il y aura Strasbourg, Pau, Nantes et Biarritz. Et Michel, on a passé votre discographie à la Moulinette. Aha. Et on est tombé non pas sur un os mais sur un légume que vous avez chanté.
Ah bon?
Bah oui. Alors,
je me souviens du chou farci dans la chanson La Famille où ça sentait le chou farci, ça sentait l'amour aussi. Mais quel légume oublié?
Vous donner un indice, ça rime avec, avec amour.
C'est ça rime avec amour. C'est dans une chanson qui s'appelle, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle My Woman Is Gone.
Ah, c'est oui. Bon. Oui. Aux chanteurs, on demande souvent, est-ce que vous chantez tout le temps du véridique? Est-ce que c'est votre vie, votre histoire? Ou bien du vent des bobards? C'est pourquoi fait pour le fric?
Ouais, c'est ça. Non, c'est... Alors, il y a un petit extrait, ça va vous revenir.
Quel est dans le mot amour?
Topinambour.
Topinambour.
J'adore le topinambour.
C'est la saison.
Ah ouais.
C'est la saison et ça tombe bien, nous avons invité un jeune chef qui aime lui aussi le topinambour. Il s'appelle Thomas Schisholm, il a 29 ans, il est très jeune et il vient de débarquer à la table des bons vivants avec un beau suite bon vivant. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Votre restaurant, une nouvelle table parisienne qui s'appelle Chocho dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes né à New York, hein, c'est ça Thomas?
Oui, moi je suis franco-américain, je suis né, j'ai grandi à New York, je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans.
C'est un New-Yorkais à Perpignan.
Ouais, c'est ça, parce que vous êtes originaire des Pyrénées.
Vous êtes réfugié culinaire
oriental.
Tout à fait.
Et vous êtes passé par Itinéraire de Sylvain Sandra, mais aussi par ce super bistrot, le bistrot Paul Bert, qu'on connaît bien avant de vous faire connaître aussi l'année dernière dans une saison de Top Chef.
Tout à fait.
Voilà.
Comment vous avez eu le déclic pour la cuisine, Thomas?
C'était pas forcément un déclic. Je suis arrivé en France, je savais ni lire ni écrire le français, donc je me suis tout naturellement dirigé vers une école d'hôtellerie.
D'hôtellerie, c'est ça. Alors c'est ce qu'on disait d'ailleurs autrefois aux enfants à l'école. Tu sais pas bien lire, tu sais pas bien travailler, tu feras cuisinier, qui était une punition. C'est... Mais vous êtes dit, je vais embrasser cette voie.
Honnêtement, je l'ai pris comme une punition.
Comme
au
une
début.
Punition aussi.
Mais voilà, la passion est venue avec les années de travail.
Ça c'est beau. Et aujourd'hui, à la tête de votre restaurant Chocho, vous faites une cuisine vraiment généreuse, nourrissante, parfumée. Et on en a la preuve, tiens, avec ce plat du jour qui arrive. En ce moment, sur Europe 1, pour vous, Michel Jonaz.
Présentation originale. Hein.
C'est beau. Hein.
Ah oui, je croyais que c'était des boulettes de viande.
Mais on dirait.
Ouais,
ou des pommes de terre.
Ou des pommes de terre.
Oui, il y a un côté trompe-l'œil. C'est vrai que vous l'avez gardé entier, le topinambour.
Je l'ai gardé entier, ouais. On essaye toujours de faire au plus simple. Je pense que c'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué.
C'est vrai.
De faire des bons plats simples. On garde également la peau pour avoir plusieurs textures fondantes.
Il y a l'air d'y avoir une sauce spéciale, non?
Là on a une laque à base de sucre naturel de topinambour.
Sucre naturel de topinambour.
Tout à fait.
Racontez-nous comment vous obtenez ça.
Donc on mixe des topinambours crus avec de l'eau, qu'ensuite on fait réduire pour récupérer l'essence, le sucre naturel du légume.
Alors qu'est-ce que c'est bon? Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous cuisinez le topinambour de temps en temps, Michel Jonaz.
Oui, j'aime bien faire des petites purées de topinambour.
Ouais, des gratins, des purées, c'est bon. Alors vous l'épluchez ou pas d'ailleurs à la maison quand vous le faites?
Un peu
la burier.
Moi, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a des petites bosses et des choses comme ça.
C'est nouveau. C'est du boulot.
Ah oui, c'est du boulot de les éplucher. Mais alors.
Là, il n'est pas épluché, justement.
Il est pas épluché.
Il est juste brossé.
Justement, j'aime beaucoup la peau, avoir ce contraste entre le cœur et la peau frite. Donc, on brosse juste pour être sûr d'avoir la peau bien propre.
Et vous le cuisez comment? Au four?
En deux fois, on cuit une première fois au four vapeur et ensuite frit.
Ah, d'accord.
Qu'est-ce que c'est bon?
Alors, voilà. Si on a four vapeur et ensuite frit,
c'est ça.
Dans l'huile.
Exactement.
Si on n'a pas de four vapeur, par quoi on peut remplacer ça?
Un panier vapeur ou cuit à l'eau, tout simplement.
Et alors ce sucre naturel, vous dites du topinambour que vous avez récupéré pour le laquer. Alors effectivement, c'est bien de le dire à nos auditeurs, ça, hein, c'est la saison des légumes racines, les betteraves, les céleris, le topinambour, le pané. On n'est pas toujours obligé de les éplucher, ces légumes, Thomas Schisholm.
Non, bien souvent d'ailleurs, la peau contient beaucoup plus de vitamines, de nutriments, et pour moi c'est intéressant. Il faut que les légumes aient été faits correctement.
Ils viennent d'où ?
Là, ils viennent de chez un producteur avec qui je travaille qui s'appelle André Trive, qui est dans le Roussillon, pas loin de Perpignan.
En permaculture, il travaille.
Exactement, il travaille en permaculture. Il fait partie des trois sols les plus vivants de France. Voilà, il y a un vrai engagement de sa part de bien faire les choses. Et c'est sûr que quand on est sur des légumes bio sains, on peut manger la peau et c'est même conseillé.
Il y a un petit côté un peu fumé qui est intéressant.
Oui, c'est ça. C'est une sauce barbecue un peu.
Ouais, exactement.
Mmh. Alors en fait, ça c'est tout simplement un sel fumé au bois de hêtre.
Ah, c'est ça.
Ah, voilà. À la fin. On l'a eu le truc. Vous avez vu, c'est les chefs, hein, Michel.
Alors il y a quelques jours, j'ai fait une soupe chou-fleur topinambour. Ça se marie très bien. J'ai mis quelques zestes de citron, crème et beurre et c'était très bon. Et ça se marie bien avec le chou-fleur.
Michel Jonas, vous êtes très amis, vous le disiez, avec Gérald Passeda et avec Guy Savoie, je crois.
Avec Guy Savoie, hein, oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui, c'est vrai.
Vous les appelez de temps en temps pour avoir des trucs quand vous cuisinez, parce que c'est vrai que vous passez du temps au fourneau à la maison.
J'ai appelé il n'y a pas si longtemps que ça le chef de l'Ambroisie.
Bernard Paco.
J'habitais à côté, on était très voisins et j'aimais beaucoup aller dans sa petite cuisine. C'était une petite cuisine comme ça, il me montrait des trucs, etc. Et oui, il y a une fois, je l'ai appelé. Pour lui demander, je ne me souviens plus ce que c'était.
Mais ça vous a aidé.
Ça m'a aidé, oui.
On dit que le marché, eh bien, ce sont les préliminaires de la cuisine. Vous aimez cuisiner, donc vous aimez faire le marché,
j'adore faire le marché. Et ça remonte à quand j'étais môme. Moi, c'était mon plaisir quand ma mère m'emmenait au marché à Drancy. J'étais môme et j'adorais ça, les couleurs, les parfums, les odeurs. Et puis même mon grand-père m'y amenait. Puis c'était à une époque où, je vous parle de ça, c'était pratiquement les années 50, hein, la fin des années 50, où quand vous achetiez un poulet, il était dans la cage. Vous voyez, vous l'achetiez vivant, vous l'ameniez chez... Voilà, ou la carte.
Je ne suis pas sûr qu'on sache encore faire ça aujourd'hui.
Je ne sais pas si on peut faire ça.
Non, mais on avait
fallait
un rapport...
Le plumer, fallait le tuer, etc.
On avait un rapport à l'animal et au vivant qui était complètement différent.
On respectait.
Et à propos d'ailleurs, pareil, sur le cheval, hein, on mangeait de la viande de cheval pour avoir du fer.
C'est vrai, il y avait beaucoup de boucheries chevalines et c'est vrai que ma mère me nourrissait au steak de cheval haché. J'adorais ça.
Il y en a presque
la purée
plus.
Viande de cheval hachée, il n'y en a plus beaucoup, hein, je crois.
Thomas Chisolme, vous êtes un chef qui incarne la jeune génération. On le sait, il faut manger moins de viande pour en manger mieux. Vous êtes sensible à ça, j'imagine. Quel genre de viande on trouve chez vous,
bien sûr,
dans votre restaurant Chouchou?
En ce moment, on est encore en période de chasse, donc je profite pour faire pas mal de gibier. Parce que c'est justement des bêtes qui ont vraiment vécu. Et donc, moi, je trouve ça bien de pouvoir honorer ça et de tout manger. À Chouchou, on ne jette rien. On cuisine tout. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est important pour moi de comprendre ce qu'on mange et de ne pas gaspiller. Peut-être qu'à l'époque, quand on tuait le poulet nous-mêmes, on était sûr de ne rien jeter et d'en profiter un maximum. Ouais. Maintenant qu'on va au supermarché pour acheter les poulets pleins d'antibiotiques, on peut se permettre de manger la moitié et que ça parte à la poubelle.
Qu'est-ce qu'on boit avec ces jolis topinambours de Thomas Chisolme, Olivier?
Eh bien, teasing, mon cher Laurent. nous avons ouvert une bouteille de Pessac Léognan.
Non.
Et je crois savoir que Michel Jonas a un petit faible pour cette appellation
J'adore.
Bordeaux dont je vais vous parler dans un instant. Et là, je vous ai apporté la Tour Martillac blanc. On parlera du rouge, évidemment, aussi tout à l'heure. Et je trouve que l'accord avec ce côté, justement, un peu fumé, du topinambour à la texture topinambour, ça marche assez bien.
Parfait.
Eh ben merci en tout cas pour cette belle recette, Thomas
Chisolme.
C'est excellent. Votre restaurant, c'est bien. C'est
oui, c'est la table des bons vivants. Hein. Mais c'est pour ça que vraiment vous soyez là. Mais oui, mais vous avez votre rond de serviette parce que vous étiez déjà avec nous pendant le confinement.
Oui, c'est vrai.
Vous étiez très inspiré, vous travailliez sur vos paroles, vous écriviez beaucoup, je crois, pendant le confinement.
Oui, j'ai profité du confinement, j'étais tranquille, j'avais pas de spectacle. Donc il me faut une période comme ça pour écrire.
Eh ben vous êtes ici chez vous et merci beaucoup.
Merci.
Thomas Chisolme, Chocho, rue de Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris. Des topinambours de compétition, hein, avec petit côté fumé au barbecue et puis une belle cuisine durable et empreinte justement de la saison et de votre génération. Merci Thomas, beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire. On sent encore les parfums de ce topinambour qui a été laqué avec son sucre naturel et puis grillé avec un sel.
Et le petit sel fumé.
Le petit sel fumé, effectivement. On a réussi à avoir cette information grâce à la curiosité de Michel Jonas, justement. C'est grâce à vous. Vous êtes en tournée avec deux spectacles, on le redit. Le piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo et puis le groove avec cette belle bande ce soir d'ailleurs à Montpellier. Et puis votre album, le dernier album qui est paru en 2019,
oui,
si mes souvenirs sont bons.
La Méouge, le Rhône, la Durance, oui, oui.
C'est ça.
Avec cette bande qui m'accompagne d'ailleurs sur scène, on a fait cet album ensemble.
Le Méouge, la Durance.
La Méouge, le Rhône, la Durance.
Oui, la Méouge. La Méouge. Et il est question d'eau, beaucoup. Hein.
Beaucoup, hein, oui. Mais j'aime l'eau, moi. Oui. Pas seulement le vin.
Eh ben, on va pas mettre de l'eau dans le vin, justement, oui. Mais on va bientôt parler vin. C'est vrai que c'est important dans la vie aussi, hein, la relation au vin. Et le vin, oui, c'est pas vous que je vais dire ça, Olivier Pouls, mais Michel Jonas.
Ben, la relation à l'eau est importante pour moi.
Oui, à l'eau, bien sûr.
Oui, à l'eau, à la mer, à me baigner quand j'étais môme, j'adorais être dans l'eau. Quoi. C'est pour ça qu'il y a, c'est vrai qu'il y a souvent de l'eau dans mes chansons. Le vin, oui, bien sûr.
Il y a 85% d'eau dans le vin quand même.
Ah oui, voilà.
Ouais, avec modération, mais avec plaisir. Mais je veux dire, oui. Vous aimez choisir les bons vins. Vous ne buvez pas n'importe quoi.
Oui, mais j'aime bien. C'est vrai que vous avez parlé du Pessac-Léognan, là. Ça, j'adore ça. Alors évidemment, il y a le fameux Smith au Lafitte. Mais ça, bon, maintenant, le Smith au Lafitte, ça atteint des prix un petit peu,
oui, c'est astronomique.
Trop élevés, quoi.
Parlez-nous de ces vins, tiens, justement, les beaux Pessac-Léognan, Olivier.
Eh bien, c'est donc une appellation bordelaise, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est située plutôt au sud-ouest de Bordeaux. C'est une appellation qui fait 1600 hectares, qui est regroupée sur 10 communes. Mais c'est une appellation assez jeune, en réalité, puisque c'est une émanation de ce qu'étaient les Graves. Alors, les Graves, on les connaît depuis très longtemps, mais l'appellation Pessac-Léognan, elle remonte à 1987. C'est donc très
c'est jeune.
Ouais, et il existe différents types de vins, et c'est l'une des grandes particularités de cette appellation, c'est qu'on y trouve et des blancs et des rouges. Et donc là, je vous ai apporté un petit échantillon de ce qu'on peut déguster. Le cépage, c'est le Cabernet Sauvignon majoritaire et Merlot, puisqu'on est plutôt sur la rive gauche de la Garonne. Et puis pour les blancs, c'est le cépage Sauvignon et Sémillon. Voilà, c'est une appellation qui produit probablement les meilleurs blancs de Bordeaux aussi.
Il y a un classement dans cette appellation ?
Et oui, il y a un classement qui date de 1959. Il y a 68 châteaux en tout dans l'appellation, mais il y en a 16 qui sont classés. Alors, il y en a qui sont classés que en rouge, il y en a qui sont classés que en blanc, il y en a qui sont classés des deux catégories. Alors le summum de l'appellation, c'est le fameux château Aubryon, évidemment, premier grand cru classé aussi dans le Médoc, qui a un double classement en quelque sorte, et puis vous en avez cité évidemment Smith au Lafitte qui fait partie des grandes références. Moi je vous ai apporté la Tour Martillac, qui est un grand cru classé qui a la particularité de l'être en blanc et en rouge. Mais il n'y a pas que des crus classés aussi dans cette appellation. Il y a aussi de très bons vins qui ne sont pas classés. Et comme c'est un classement qui n'est pas révisé, contrairement à d'autres classements bordelais, eh bien ils restent non classés. Mais pourtant, la qualité des vins a beaucoup augmenté. Je vais vous parler dans un instant des Carmaubryon, que je vais vous servir en rouge. Vous allez voir, ça fait partie de ce qu'on appelle les outsiders, c'est-à-dire ces crus qui ne sont pas classés, mais dont la qualité est vraiment remarquable.
Michel, il vous plaît, ce vin ?
Je n'ai pas goûté, là, encore.
Ah ben, attendez, vous avez le blanc, déjà.
Ah, c'est le blanc,
oui, c'est le blanc.
Alors, j'ai posé une question naïve, parce que moi, je ne suis pas très bon... Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste du vin. Mais qu'on a dû vous poser déjà, il faut du raisin blanc pour faire du blanc.
Alors,
c'est idiot comme question.
Non, c'est pas idiot.
Alors, il faut du raisin. Alors, la grande majorité des raisins de cuve, c'est-à-dire des raisins qui servent à faire du vin, sont des raisins à jus blanc, mais ils ne sont pas forcément blancs. Alors oui, pour faire du blanc, le Sauvignon et le Sémillon sont des raisins blancs à jus blanc.
Ouais.
Mais pour faire du vin rouge, ce sont des raisins rouges à jus blanc. Et en fait, si vous le pressez simplement, le jus, il sort, il est blanc. C'est le contact entre la peau du raisin le jus qui va donner la couleur.
Les fameux tanins aussi, hein, de
et
la
qui
peau.
Va extraire aussi, bien sûr, les tanins. C'est pour ça que les vins rouges sont plus tanniques que les vins blancs. Les vins blancs sont pressés directement, on en extrait le jus, on le fait fermenter.
Ah,
et Sauvignon et Sémillon sont des raisins absolument blancs.
On vous a servi le blanc, on vous a servi le rouge.
Il était bon
aussi.
Le blanc, oui.
Le blanc, il vous a plu. Alors, autour du rouge, maintenant, Michel Jonas.
Alors, la particularité des vins de Pessac-Léognan, en général, surtout quand ils vieillissent, c'est qu'ils prennent des notes un petit peu fumées. Et ça fait un petit écho amusant avec d'ailleurs notre plat tout à l'heure. Et voilà, l'une des caractéristiques de ces vins de Pessac-Léognan, d'abord, c'est beaucoup d'équilibre. Ce sont des vins qui ne sont pas trop riches en alcool, même si ces dernières années, ça a parfois été un petit peu difficile de contenir les niveaux. Mais c'est des vins qui ont beaucoup de finesse et qui développent souvent cette petite note un peu empyromatique, comme on dit. C'est-à-dire d'âtre froid.
On parlait du prix avec Michel Jonas tout à l'heure. Oui. C'est vrai que les Olafitte, ça atteint des sommets quand même. Ce sont des vins chers.
C'est une appellation dans laquelle on trouve vraiment de bonnes affaires à prix tout à fait raisonnable. Et les premiers prix de Pessac-Léognan, c'est autour de 12-15 euros. Hein, la Croix-Martillac, par exemple, ou le Pessac-Léognan du domaine Le Chevalier, sont très bien faits. Et puis évidemment, on peut monter à des prix très 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 élevés, mais on touche là à l'excellence absolue du grand vignoble français, une bouteille d'Aubryon, on n'en boit peut-être pas souvent, mais oui, c'est hors de prix pour la grande majorité d'entre nous.
Et ben voilà, à boire avec modération et avec plaisir quand on peut. Revenons à l'eau, tiens. Dans votre dernier album, on le disait, La Méouge, le Rhône, la Durance, il y a un titre intitulé Maison de retraite.
Ah oui.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une chanson joyeuse, moi je trouve.
Oui, je suis content de vous l'entendre dire. Oui. C'est vrai, parce que des fois on parle de nostalgie ou de choses comme ça, comme si j'étais angoissé par le temps qui passe ou par la vieillesse. Non, non, vous avez raison, c'est avant tout une chanson d'amour et sur la force de l'amour qui n'a pas de limite. Oui.
Le temps qui passe, effectivement, et les promesses qu'on se fait aussi.
Oui, c'est vrai, je l'ai appelé la maison de retraite, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une erreur, mais ça veut dire surtout l'homme, le personnage dans la chanson, puisque les chansons ne sont pas forcément autobiographiques, hein, dit à sa femme, tu sais, nous on n'ira jamais, n'aie pas peur, on aura toujours cette force de pouvoir s'écrire des poèmes, se dire je t'aime, et puis se regarder dans les yeux, etc. Et leur maison de retraite, ils peuvent se la garder, nous on ira dormir dehors, on regardera les étoiles, etc. Donc c'est effectivement surtout une chanson d'amour.
Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises? On sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours et le jour et la nuit.
Allez, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Michel Jonas, pour vous découvrir encore mieux de l'autre côté de la fourchette. Mais on l'a vu, on l'entend hein, depuis 11h30, vous êtes un gourmand et un gourmet.
Ah oui.
Et ça fait plaisir de vous avoir à table, comme on dit. Quel est le goût de votre enfance, tiens, Michel Jonas?
Ah ben, la goulash. Je dis bien la goulash parce que pour moi, la goulash, c'est pas des morceaux de viande avec des pommes de terre à côté. Non, non, la goulash, c'est vraiment en hongrois, ça s'appelle goulash levesh. Ça veut dire c'est la soupe. Le plat populaire, traditionnel, où on mettait, il y avait des pommes de terre, quand on pouvait, il y avait les morceaux de viande, les morceaux de bœuf, et puis il y avait ce qu'on appelle les nokedli, que je voyais ma grand-mère faire. C'est-à-dire, c'est juste de la farine et de l'eau, et qu'on coupe en tout petits morceaux, et qu'on jette comme ça...
Des spätzle en Alsace.
Voilà, qu'on jette comme ça dans la soupe, qui est bien évidemment remplie de gros morceaux de viande et de pommes de terre, et de paprika, bien sûr, puisque c'est l'épice par excellence hongroise.
Vous vous souvenez du premier plat que vous avez cuisiné, Michel?
Ah oui, c'était très particulier. C'était à l'époque, vous savez, il y avait ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe encore dans les boulangeries, le bâtard, vous savez, c'était pas des baguettes, mais c'est des gros morceaux.
Pain, et alors, pain large.
Des pains larges. Et je me souviens avoir creusé, enlevé la mie, comme ça, gardé donc la croûte, et puis rempli, à faire un énorme sandwich. J'avais mis de la viande hachée, j'avais mis un œuf, j'avais mis plein de trucs qui me tombaient sous la main. Alors c'était des sandwichs énormes comme ça.
Une sorte de pambagna,
mais je me rappelle avoir mis de la viande hachée justement dedans.
Votre plus beau repas, tiens, dans le sens inoubliable.
J'étais dans un petit village, Eour, dans les Alpes du Sud, et avec les amis du village, on s'était dit, allez, pendant 8 jours, on fait
8 jours
de l'eau, peut-être des tisanes, mais c'est tout. Et donc, au bout de 8 jours, quelqu'un du village nous avait fait une soupe qui n'était pas extraordinaire. Mais là, on se rend compte, quand vous ne mangez pas pendant 8 jours, on commence à prendre conscience de ce que c'est vraiment la faim. C'est-à-dire le corps qui dit, là, il faut me donner quelque chose. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est, ça.
C'est
on ne fait pas par jour.
C'est la chanson de Johnny, l'envie, quoi.
Oui, mais là, donnez-moi l'envie. Le corps disait, ah oui, ça, j'en avais vraiment besoin, quoi.
Votre pire repas?
J'ai eu plusieurs repas comme ça, quand il y a autour du repas, parce que pour moi, encore une fois, le repas, c'est un moment convivial de bonne humeur, joyeux et d'amour, un lien qui se tisse entre les gens qui sont là. Un repas avec des disputes, avec des conflits, c'est insupportable. Parce que
on digère mal.
C'est même pas qu'on digère mal, je pense que la nourriture qu'on prend ne passe plus et devient du poison. Quand vous mangez de mauvaise humeur, en vous engueulant avec quelqu'un, etc., il y en a eu plusieurs comme ça.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Pour moi, j'en fais tout le temps, c'est-à-dire c'est mes amis proches, et puis ma famille, et puis mes enfants, et puis, etc. Voilà.
Votre adresse secrète, tiens, Michel Jonas?
Mais j'en ai pas tellement, moi. J'aime bien Filkenstein, rue des Rosiers. Florence Filkenstein, qui est une petite épicerie, qui vend des gâteaux au fromage, qui vend
Voilà. Ah oui, avec la devanture jaune.
Oui, vous la connaissez.
Ah, bien sûr, oui, absolument. Voilà. Oui, j'y
mais il y en a deux. Il y a Florence qui fait le coin, là, comme ça. Et puis, plus loin, il y a Sacha Finkelstein.
Oui, exactement.
Donc, voilà, moi, je connais mieux Florence et qui vend des produits de la cuisine juive, disons.
C'est Florence Kahn. C'est
Florence Kahn.
Voilà.
J'appelle Finkelstein. C'est Florence Kahn. D'ailleurs, Ducasse en avait parlé dans un de ses bouquins qui réunissait plusieurs adresses comme ça à Paris. Et c'est vraiment la cuisine, si vous voulez, juive, mais ashkénaze. Beaucoup plus que séfarade.
Et le mot de la fin, F-A-I-M ?
Ben, l'amour et la joie, pour moi, c'est ça le symbole d'un bon repas.
Et le topinambour ?
Et le topinambour. Essayez ça, hein, je vous assure. J'ai essayé ça il y a quelques jours, une soupe avec du chou-fleur et du topinambour, comme ça, mixé avec quelques zestes de citron et puis un peu de crème.
Eh bien, faites cette recette en écoutant du Michel Jonas.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
On sera en
c'est
communion avec vous. Merci beaucoup, Michel, d'être venu
avec
à la table
plaisir.
Des bons vivants. C'est un bonheur de vous avoir à table.
Ah oui, c'était un bonheur.
Je rappelle vos deux spectacles, piano-voix en tournée et puis groove en bande, notamment ce soir à Montpellier avec votre belle équipe de musiciens.
Je vais bien, tiens.
Et vous êtes... Et vous êtes nombreux sur scène. Allez voir Michel ce soir et dites-nous comment il était.
Je suis sûr qu'il
va être en forme. Merci à ma fine équipe et à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction. À la rédaction également, Julien Amat et Marion Sauveur. Merci Loïc Vimard à la réalisation. Merci chers auditeurs, hein, ça nous fait plaisir, votre belle fidélité. Vous êtes nombreux à nous écouter, ça nous touche. Et vous retrouverez ces émissions en écoutant le podcast sur europe1.fr, même adresse pour vous abonner à la newsletter. Salut Charlotte Langrand.
Salut Laurent.
À demain dans le journal du dimanche.
Toujours.
À demain sur Europe 1, Laurent.
À la table du dimanche,
bah
absolument,
oui.
Mais j'allais oublier, vous avez raison.
Bah, alors.
Avec Arnaud Ducret, oui, on va parler du film Tendre et Saignant. Et puis vous, on vous retrouve du lundi au vendredi chez les camarades Stéphane Bern et Mathieu Noël dans Historiquement Vôtre, qui ont de belles audiences aussi. Parce que oui, il y a de belles audiences aussi sur Europe 1, on peut en parler.